Il était étrange qu'elle pût être si paisible. Rien, en dehors d'une faiblesse dans les jambes, ne trahissait sa décision. Elle marchait avec lenteur, d'un pas égal, et ne pensait à rien. Il y avait eu la lutte, les errements désespérés, les impulsions maniaques et la honte, mais il n'y avait plus rien. Le calme était revenu dans son âme, comme une nuit absolvant le jour. La paix, même triste, même sale, vient toujours après la défaite. Lorsqu'elle tourna la clé dans la serrure, il y eut bien un déclic, mais nulle volupté infernale. Doucement, comme habituée déjà à ce qu'elle allait découvrir, elle poussa la porte entr'ouverte et entra. Ses yeux ne purent voir tout d'abord qu'un grand rayon de lumière qui entrait par une ouverture étroite dans le mur qui lui faisait face et tombait obliquement sur le sol dallé. Tout le reste était plongé dans les ténèbres. Elle fit un pas pour se retrouver dans la lumière. La porte s'était refermée sur elle et elle entendait des bruissements tout proches dans l'ombre alentour. Quelque chose était dans l'air. Elle mit plusieurs secondes à s'en apercevoir. Une odeur douceâtre, prégnante, écœurante à vomir. Elle retint son souffle et se tint immobile, scrutant l'ombre grouillante autour d'elle. Bientôt ses yeux purent discerner des formes, des silhouettes de femmes en robe blanche grouillant dans la pénombre comme des larves aveugles. Éléonore restait figée, comme si le moindre mouvement avait pu la souiller, droite et raide dans la lumière impitoyable. Seule mobile dans son visage de statue, ses yeux grands ouverts sondaient la pénombre. Son cœur silencieux avait cessé de battre. Un froissement de tissu derrière elle la fit sursauter. La forme, presque à ses pieds, s'était approchée de la lumière. Elle avait de longs cheveux bruns, épars, et son visage d'une affreuse pâleur, au nez pincé, aux lèvres bleuies, n'avait pas d'expression. Ses yeux d'une clarté vitreuse, fixes et hagards, regardaient Éléonore, et sa peau, sortant d'un décolleté de dentelles rougies et fanées, sa peau marbrée de l'affleurement des veines, exhibait une blessure ouverte. Éléonore poussa un cri et porta la main à son cou. Elle croyait discerner un sourire sur les lèvres étrécies et ne pouvait détacher son regard du visage dont chaque cheveu mort, chaque pore immobile lui était objet d'horreur. Un murmure rauque jaillit de la gorge tranchée. « Toi aussi !» Éléonore voulut crier, mais les mots s'étranglèrent dans sa bouche et elle s'effondra par terre en sanglotant. Elle n'opposa pas de résistance quand des mains, froides et molles, la touchèrent. Elle ne voulait plus voir les cheveux pleins de sang et de poussière sur les robes déchirées. Mais elle ne put éviter d'entendre le chant atroce et lancinant qui s'éleva des bouches figées. La mort est longue, longue, et les jours se ressemblent. La huitième viendra en robe de mariée, et sa peau sera blanche et ses cheveux fleuris, et ses yeux grands ouverts et son cou grand ouvert. La mort est longue, longue, et les jours se ressemblent. La neuvième viendra en sa tenue de noces, blonde la pâle enfant, belle comme une morte. À sa gorge pendra son collier de sang frais. La mort est longue, longue, et les jours se ressemblent. Les sept mortes amassées autour d'elle étaient maintenant en pleine lumière et la fixaient de leurs yeux vides. Leur chant s'arrêta peu à peu, puis, une à une, elles commencèrent à regagner les ombres dont elles étaient sorties. Éléonore releva la tête et regarda leur reptation ignoble, aux gestes saccadés. On eût dit que leurs mouvements ne leur appartenaient plus, qu'un invisible marionnettiste les faisait maladroitement bouger. Elles s'agrippaient les unes aux autres, dans une détresse dérisoire, et s'immobilisaient parfois de longs moments avant de poursuivre. Éléonore pleurait, à nouveau seule dans la lumière béante, une main agrippée à son cou. Quand le silence fut revenu, elle se releva machinalement et se traîna jusqu'à la porte, incertaine de sa propre existence et les yeux noyés de cauchemar. Elle ordonna que l'on fît brûler la robe qu'elle portait et fit savoir à sa sœur qu'elle ne la recevrait pas avant le lendemain, puis elle prit un bain et se lava compulsivement les cheveux 4 ou 5 fois de suite sans parvenir à y renoncer. La clé était sur le rebord de la baignoire, moins brillante peut-être qu'elle n'avait été. Une tache brunâtre, qui ressemblait à du sang séché, en recouvrait une partie. Éléonore la regardait de temps à autre, sans horreur particulière. Sa forme, sa tache même, lui semblait familière. Elle ne chercha pas à la nettoyer. La pensée mit plusieurs heures à renaître dans son esprit. Elle avait dû revenir de là-bas comme une somnambule. Elle ignorait même ce qu'elle avait pu dire ou faire à ce moment. Peu importait à présent, peu importait le monde, il n'y avait plus que la faim qui comptait. Elle n'espérait rien du matin qui suivrait. L'avenir refermé s'achèverait avant le jour. Quand Barbe Bleue rentra ce soir-là, une tempête de vent se déchaînait dans les jardins, et l'on entendait de l'intérieur même du château de longues plaintes sifflantes. Des brèches invisibles semblaient s'être ouvertes dans les parois de pierre, et des courants glacés agitaient les tentures, faisaient claquer les portes, plongeant toute la demeure dans une atmosphère désolée. Barbe Bleue se hâta plus que de coutume vers la chambre d'Éléonore, étreint par un froid pénétrant. Il hésita quelques instants devant la porte, presque défaillant, et lorsqu'il entra, la vision qu'elle lui offrit le figea. Elle avait revêtu sa robe de mariée, avait accroché des fleurs de diamant à ses cheveux mouillés et rayonnait une beauté tragique. Ses yeux le regardaient avec distance et tristesse, et un sourire pâle, résigné, courbait ses lèvres. Il était en proie à une émotion violente qu'il lui fut difficile de contrôler. Il s'approcha du fauteuil où elle trônait, immobile, et s'agenouilla auprès d'elle. « Pourquoi cette robe ? » articula-t-il. « Je vous demande pardon. » Il baissa la tête et couvrit sa main de baisers. « J'ai cru plus juste de vous prévenir, » ajouta-t-elle. « Taisez-vous, » murmura-t-il. Elle caressa de son autre main les cheveux noirs. « N'y a-t-il pas de spectacle ce soir ?» Il la regarda à nouveau en hochant la tête. « Pas de théâtre, pas d'orchestre, pas de décor féerique pour vos cadeaux illimités ?» Il se releva avec difficulté, puis retomba à genoux, brisé. « Je vous en prie, » dit-elle doucement. Il se releva cette fois, et d'un ton vide, en regardant par la fenêtre, il se reprit. « Non, Éléonore, ce soir n'est pas un soir de fête. Pourquoi m'avez-vous donné un chaton ?» Il se retourna vivement. « Je croyais qu'il vous amuserait. » Elle éclata d'un rire triste qui s'arrêta presque aussitôt. « J'ai fait dire à Anne que je ne la verrais pas avant demain matin. » « Demain matin ?» répéta-t-il lentement. « Je pourrais la voir, n'est-ce pas ? Quelques minutes ?»« Vous la verrez tant qu'il vous plaira, » répondit-il d'une voix blanche. Éléonore soupira. Il y eut un silence assez long. « C'est difficile, n'est-ce pas ? » dit-elle très bas. « Surtout avec ce vent au dehors. Il aurait fallu que ce fût l'été. Nous aurions marché dans le jardin. Je vous aurais pris le bras et tout aurait été plus facile. » Il la regarda. Elle regardait par terre et ressemblait à une poupée de cire dans la splendeur absurde de sa robe. « Je me sens mieux maintenant, » continua-t-elle. « Je crois que j'étais devenue folle. Et à présent je suis... calme. C'est étrange comme je suis calme. Est-ce que vous avez peur ?» Elle leva les yeux vers lui. Il avait l'air inquiet, inquiet à se ronger les sangs. Elle soutint son regard. « Oui, » dit-elle. Il se précipita vers elle, la releva et la prit dans ses bras. « Je ne vous survivrai pas, » murmura-t-il. Elle sentit la vie revenir en elle à son étreinte, et ses larmes contenues s'échappèrent. « Vous ne m'en voulez pas ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas, mais la serra si fort qu'elle en eut presque mal. « Moi, je ne vous en veux pas, » dit-elle, « et je me contrefiche du sang sur leurs cheveux. Taisez-vous, je vous en supplie. » Elle sanglotait maintenant, et il la coucha sur le lit, et caressa longuement son front et ses cheveux, jusqu'à ce qu'elle fût apaisée. Puis il se coucha près d'elle, et pour la dernière fois ils firent flamber le feu de leur chair, dans un paroxysme de leur passion, où la jouissance et la mort ne se distinguaient plus. Le château entier résonna du rugissement de Barbe Bleue à l'heure où il découvrit la clé. Anne, qui avait passé la nuit à sa fenêtre, les mains tordues et le cœur déchiré, en tressaillit et se mit à pleurer convulsivement. Elle ne pouvait détacher son regard de l'horizon, de la route sur laquelle elle verrait peut-être à temps poindre deux cavaliers au galop. Mais elle ne voyait rien venir. Lorsqu'on frappa à la porte, elle se précipita et entoura sa sœur avec toute la force qui lui restait. Éléonore avait les cheveux épars et sa robe blanche n'était pas boutonnée. Son visage défait avait un éclat insoutenable. « Éléonore, » murmura Anne, « j'ai fait prévenir nos frères hier. Peut-être qu'ils vont venir. » Éléonore se dégagea et s'assit sur le rebord du lit. Elle était pâle, cernée, et son regard semblait tourner vers l'intérieur. Anne la regardait avec effroi, tandis qu'elle lissait absurdement ses cheveux. Dis quelque chose, supplia-t-elle. Tout est fini. Anne, suffocante, retourna près de la fenêtre et reprit sa surveillance maniaque. Ne peux-tu pas te sauver ? Demanda-t-elle. Éléonore ne répondit pas. Combien de temps as-tu ? Éléonore ne répondit pas. Rien. Rien que le poudroiement de la route sous le soleil rougeoyant du matin. « Tu ne vois rien venir ?» demanda Éléonore. Anne mit un moment à répondre. Il y avait comme un soulèvement de poussière là-bas, à l'horizon. Dans un sanglot nerveux, elle balbutia. « Ils arrivent ! Ils arrivent !» Elle se tourna vers Éléonore qui venait de se lever. « Tu es sauvée !» répétait Anne. Éléonore secoua la tête. « Il faut que je me dépêche alors. » Anne fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Pardonne-moi, et embrasse mes frères. Éléonore ! Elle se dirigeait vers la porte. Anne tenta de la retenir, mais sa sœur la regarda avec une détermination telle qu'elle en resta paralysée. Rien ni personne n'aurait pu passer outre ce regard. Il se tenait debout, un long couteau d'argent à la main. Il la vit arriver en courant, dans le désordre de sa robe, et regretta de ne pas avoir eu plus de temps. Hâtez-vous, je vous en prie, dit-elle. Elle s'avança vers lui et, dans un geste troublant, tendit sa gorge blanche. « Pourquoi vous, qui étiez si heureuse ?» Éléonore pensait au cavalier dévalant la route. « Hâtez-vous, vous faites durer mon supplice. Je ne sais pas si mon bras aura assez de force. » Elle le regarda et songea qu'elle n'avait jamais mis en doute qu'il la tuerait, qu'elle l'avait toujours tenu pour certain et qu'elle le mépriserait de toute son âme s'il ne le faisait pas. « J'ai eu la force d'ouvrir la porte. » J'ai eu la force de vous mentir et de bafouer le seul ordre que vous m'ayez jamais donné. Vous devez avoir celle de me tuer. » Il mit la main gauche derrière son cou, dans un geste qui était à la fois celui de l'amant et de l'assassin. Éléonore regardait intensément les yeux gris et pensait à ses frères descendus de cheval et violant l'entrée du château. « Je vous ai trahi, » répéta-t-elle. Il leva la main droite armée du couteau. « À tout de suite, » murmura-t-il. Éléonore regardait la lame étincelante suspendue à hauteur de ses yeux et attendait le souffle coupé dans le vacarme de son cœur battant. Mais au lieu de s'abattre d'un coup, la lame échappa de la main droite de Barbe Bleue et tomba, et la main gauche qui la serrait s'accrocha désespérément à son épaule. Elle regarda Barbe Bleue, dont les yeux gris exprimaient une surprise douloureuse. Du sang coulait à jets irréguliers de sa bouche et s'épandait rouge dans sa barbe. Il allait tomber, et la pression de sa main sur son épaule devenait écrasante. Éléonore hurla, et lorsque le corps s'écroula, elle s'agrippa à lui et embrassa en pleurant la bouche sanglante. Elle ne vit ni n'entendit ses frères, qui, interdits sur le seuil de la chambre, restèrent quelques instants encore en position de tir, leurs arbalètes rutilant dans la lumière du matin. Elle refusa de suivre qui que ce soit et empêcha farouchement quiconque de s'approcher de son mari. Il fallut la décrocher de force du cadavre. En dehors de l'enterrement de son époux, Éléonore ne sortit plus jamais du château. Elle refusa toute visite de ses parents et de ses frères et ne leur écrivit jamais plus. Seule Anne, pendant les quelques années qui précédèrent son propre mariage, fut autorisée à venir la voir. Éléonore, selon ses dires et ceux des domestiques, ne parla presque plus et passa ses journées à arpenter le domaine, vêtue comme une princesse, avec sur le visage la lumière candide de la démence. Lorsqu'elle mourut bien des années plus tard, on ne l'enterra pas aux côtés de Barbe Bleue, mais dans l'alignement des 7 tombes jumelles au cimetière du village. On raconte que, depuis ce jour, la magie s'est éteinte au château.